Le Canadien reprend le collier ce soir au Centre Bell face aux Blue Jackets de Columbus, des adversaires qui ont été battus à domicile 5-1 par le Lightning hier. Et je tiens de source sûre, je peux même te le montrer, que l'équipe est rentrée très tard à Montréal. Les Blue Jackets sont arrivés à 1h35 du matin.
Oui.
Et Martin McGuire m'a dit, 1h35 du matin, ça c'est l'atterrissage de l'avion. Les gars n'étaient pas couchés, les petits gars, avant 2h30, 3h moins quart.
Ah, c'est sûr, puis tu t'endors pas immédiatement en plus.
Est-ce que ça fait des Blue Jackets un club à la portée du Canadien? Ben, peut-être.
Ben, normalement, oui. Puis on a vu que leur entraîneur, John Tortorella, récemment, avec les médias à quelques reprises, ils ont perdu un peu les pédales. Et on a aussi des dossiers très chauds sur le poil à Columbus, dont Artery Panarin, bien sûr, et Sergei Bobrovski, qui sont joueurs autonomes à la fin de la saison. Et on ne sait pas quoi faire avec eux d'ici la date limite qui est lundi. Donc, on est un peu sur le nerf du côté de Columbus. Là, on a effectué des changements à l'entraînement du côté du Canadien ce matin. Enfin, on avait regroupé Drouin avec Domi et Armia, donc pour le premier trio ce soir. Le deuxième trio, eh bien, il y avait Tatar, Thompson, qui était là à la place de Dano, parce que Dano, ce matin, était absent. Sa femme est sur le point d'accoucher. Gallagher sur la droite. Et ensuite, eh bien, la troisième ligne, Byron avec Lekkonen et Kotkaniemi et Shaw. Bon, Byron était là et il faisait des rotations parce qu'on n'est pas certain, lui non plus, s'il va revenir au jeu ce soir. Et le quatrième trio, c'était Hudon, Pekka et Weiss et Deslauriers laissé de côté. Donc, plusieurs changements dans la formation de Claude Julien pour le match de ce soir.
Dans la presse, un texte très intéressant ce matin. On est revenu sur le développement du futur bassin Peel, soit avec la présence d'un stade ou encore un développement immobilier. Oui. Et on est revenu sur ce dossier dont tu nous avais parlé à l'automne dernier.
Exact.
Le désir d'une entreprise, de Vimco, de développer le même terrain où on désire construire un stade.
Exactement. Et de Vimco, là, comme je vous l'avais expliqué à l'automne dernier, n'ont aucun plan pour construire un stade de baseball sur ce terrain si jamais c'est eux qui obtiennent l'approbation pour le développer. Maintenant, ils partent un peu avec une prise parce que, vous savez que la ville de Montréal s'est dotée d'un droit de préemption pour ce terrain-là, donc, et c'est réservé exclusivement justement pour la possible construction d'un stade. Donc, c'est certain qu'ils n'ont pas l'avantage. Mais attention, Claridge et Devimco ont déjà travaillé ensemble dans le passé. D'ailleurs, ils se sont lancés ensemble dans le dossier de la brasserie Molson qui finalement n'a pas abouti, mais on a déjà eu des partenariats. Et souvenez-vous qu'à l'époque, lorsque j'avais parlé au président de Devimco, il m'avait dit « Ben, si jamais on veut bâtir un stade, moi, j'ai aucun problème à m'occuper de tout ce qui va entourer le stade, c'est-à-dire l'urbanisme qui va entourer le stade. » Donc, c'est pas impossible que les deux groupes se serrent la main.
Mais tu nous avais dit à ce moment-là, après l'entrevue, je me rappelle très bien, très bon dossier d'ailleurs, dès octobre dernier, tu nous avais dit que du côté de Vimco, la question, c'était de savoir le passage du transport en commun.
Exactement.
Qu'est-ce qui va arriver pour la desserte de ce secteur avec un immense projet immobilier, d'autant plus vrai avec un stade.
Ben écoutez, il y a des condos présentement près du bassin Peel qui ne se vendent pas parce qu'on ne sait pas où et si il va y avoir un arrêt de train du REM. On devrait avoir le schéma bientôt, mais ça fait longtemps qu'on dit ça quand même. Mais c'est aussi un enjeu important pour le stade de baseball. Donc, du côté de Devimco, autant on veut développer ce terrain-là, mais croyez-moi, s'il n'y a pas d'arrêt de train-là, ils vont abandonner ce projet-là, croyez-moi. Donc, encore, ça va faire couler encore beaucoup d'encre.
Eh bien, le problème du plus gros, de la plus grande star est probablement réglé et il va probablement signer le plus gros contrat de l'histoire d'un joueur autonome du baseball. On parle de Manny Machado.
Oui, Manny Machado était, avec Bryce Harper, l'un des deux joueurs autonomes les plus convoités. On est aujourd'hui le 19 février. Les camps d'entraînement du baseball sont déjà ouverts et ces deux joueurs-là n'avaient pas trouvé preneur. Ben Machado, on parle de 10 ans. 30 millions de dollars, c'est le plus lucratif contrat accordé à un joueur autonome, tout sport confondu, en Amérique du Nord. C'est immense comme contrat, mais ça se retrouve dans les mains de qui? Les Padres de San Diego. Pas les Dodgers, pas les Yankees, pas les Red Sox. Donc, il y avait les White Sox qui étaient dans le portrait, qui lui offraient, Paul, 350. Mais il y avait beaucoup d'argent qui était relié à des bonnies, et lui, il voulait rien savoir de cela. Donc, il a signé avec les Padres. Donc, d'un côté, on se dit, ça n'a pas de bon sens, c'est fou, c'est des prix de malade. D'un autre côté, on se dit, ben c'est une équipe qui, il y a 20 ans, jamais aurait pu se permettre de signer le joueur autonome le plus convoité sur le marché.
T'as tout à fait raison.
Voilà.
Il n'aurait pas pu faire ça il y a même 10 ans.
Exact, exact.
Sergei Kovalev a partagé une photo de lui, champion du monde WBO,
oui.
Sur ses médias sociaux. Une photo de lui avec en face le champion IBF. Arthur Beterbiev,
oui.
Est-ce que c'est un message?
Oui, c'est un message. Il veut affronter Beterbiev en combat d'unification. Bien honnêtement, Paul, je suis très surpris que ce soit Kovalev qui lance les hostilités. Parce que Kovalev, avec le chaos qui s'est fait passer contre Alvarez, tu sais, dans ma tête, je me dis, il y a peut-être une crainte d'affronter un cogneur comme Beterbiev.
Oui, mais il vient de revenir, là, il a battu Alvarez.
T'as raison de le mentionner. Mais Beterbiev et Kovalev, un Russe et un Tchétchène à ne pas inviter au même party.
Politiquement, c'est pas très bon.
C'est pas très bon. Ils ont eu des guerres au niveau de la boxe amateur à l'époque. Et là, ben, ce serait une première occasion pour eux de s'affronter chez les pros, avec bien sûr deux titres en jeu, un combat possible d'unification ce printemps, possiblement au mois de mai. On va en reparler en temps et lieu.
Bon, alors Jérémy, toi tu t'en vas.
Oui.
Tu t'en vas avec l'Impact, retrouver l'Impact.
Oui.
En Floride, ce qui veut dire que ton bulletin de demain, tu vas le faire directement de la Floride.
Je serai en transit à Philadelphie, okay, quand on va se parler demain, et je serai présent pour le match de demain soir de l'Impact contre les Rowdies à St. Petersburg.
Et là, tu auras une vue complète sur la dernière phase du camp d'entraînement.
Exactement.
Avant le début de la saison.
Exactement. Je vais pouvoir voir en personne les deux derniers matchs du camp d'entraînement de l'Impact avant que le tout ne commence la semaine suivante à San Jose.
Bon voyage.
Merci.